Déjà, un, deux, trois, il est au milieu de nous. C'est ce qu'il dit, où deux ou trois sont assemblés en mon nom, ne sont pas assemblés au nom d'un autre nom que le nom de Jésus, donc il est au milieu de nous. On va faire une petite lecture. On va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 15, on va lire le verset 1er et le verset 2, et ensuite nous irons au verset 11, et vous comprendrez à la fin de la prédication pourquoi j'ai inclus ces deux premiers versets. Donc Luc, chapitre 15, verset 1er, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » On va donc au verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Nous réalisons la valeur d'une chose à quel moment? Affirmatif. Quand nous l'avons perdu. Eh oui. Combien d'entre vous ont déjà perdu leur clé? Maintenant, ils font des porte-clés avec une alarme que l'on peut déclencher, avec son portable, par exemple. Qui n'a jamais perdu de l'argent? Ça arrive aussi. Qui n'a jamais perdu son permis de conduire? Moi aussi. Et c'est arrivé à un de mes collègues. Il ne savait plus où était garée sa voiture. Il ne savait plus dans quel parking il l'avait laissée. Ça arrive, hein? Imaginez votre enfant qui vous échappe. Vous êtes dans le supermarché, une grande surface. Puis tout d'un coup, vous entendez, donc à l'interphone, « Le petit Jonathan attend sa maman à l'accueil. » Je sais où il est. Eh oui. Alors bien sûr, un enfant est bien plus important que la perte d'une clé ou d'un trousseau de clés. La peine de perdre quelque chose est proportionnelle, je dirais, à la valeur de la chose. Plus une chose est précieuse pour vous, plus vous allez souffrir. C'est comme ça. Si vous la perdez, il y a un grand vide qui se crée. Il y a un besoin que vous ignoriez qui est là. Qu'est-ce que je vais faire sans ? Comment est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Un petit peu, Luc dit ceci. Alors nous avons ici trois paraboles qui se suivent. J'ai pris que la dernière. La brebis perdue, la pièce perdue, et on arrive donc à Luc 15, le fils perdu. Alors pour comprendre ce que Jésus dit, eh bien il faut revenir au verset 1 et au verset 2 qui ont servi d'introduction. On nous a dit que les collecteurs de taxes et d'autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'entendre. Oui, les collecteurs de taxes, les pécheurs, eh bien étaient comparés au jeune fils. Vous voyez, celui qui est parti, qui a demandé la barre de biens qui lui revenait. Attendez, au fait, un testament, il est ouvert quand celui qui est à l'origine du testament n'est plus de ce monde, est décédé. Et c'est là qu'il y a le partage des biens. Donc lui, il a pris un peu d'avance. En tout cas, le père a été bien gentil. Mais c'est une leçon pour nous, vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, il était donc là, lui, je dirais les collecteurs de taxes et des pêcheurs, étaient comparés au fils, ils étaient également la brebis égarée, ils étaient la pièce perdue, le fils perdu donc bien sûr. Alors ils se rassemblaient pour écouter Jésus. Mais les pharisiens et ceux qui enseignent la loi, bien, se sont mis à murmurer. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Alors eux, justement, eh bien ces pharisiens, moi, je les mets parmi les 99 brebis du troupeau, parmi les pièces qui restaient dans le porte-monnaie, mais également, je dirais, le fils aîné. Et non seulement ils vont juger les collecteurs et les pécheurs, mais ils vont aussi juger Jésus. Vous rendez compte ? Ils ne se réjouissaient pas de ce que les perdus venaient à Jésus. Terrible. Ils découvrent la vie, ils viennent et ils se font, quelque part, ils se font critiquer, mais également ceux qui leur ont annoncé la bonne nouvelle. C'est quelque chose de terrible. Le père, quand il a retrouvé son fils, oui, il a voulu faire la fête, il s'est réjoui parce que ce fils était perdu. Et il fallait qu'il soit sauvé, qu'il revienne. Amen. Dans la troisième parabole, celle du fils prodigue, il y a le frère aîné. Il y a également le père qui a perdu son fils. Alors, ce qui nous intéresse déjà, c'est le plus jeune fils. Il est là. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et puis, il est parti pour vivre dans la débauche. Ce qui le caractérise, c'est qu'il voulait vivre loin, loin de son père. Je ne sais pas si c'est votre décision de vouloir vivre bien loin de ce qu'on appelle le Père céleste. Notre Dieu, si vous désirez vivre comme cela, sachez que c'est quelque chose de douloureux à la fin. Voyez, au commencement, peut-être, on va le voir, il y a de la réjouissance, mais à la fin, vous savez, quand on dresse les comptes, qu'on fait le bilan, et on s'aperçoit que c'était quand même mieux dans la maison du Père, ou, excusez-moi, dans la présence de notre Père céleste. Alors, c'est peu que vous veniez aux réunions, mais votre intention est de rester à distance. Vous savez, un peu loin du Père, pas trop près. Et je dirais que les caractéristiques du jeune homme sont aussi celles des collecteurs de taxes, des pêcheurs, à donner à l'argent. À donner à l'argent. Livrer à la débauche. C'est pas comme ça que nous étions auparavant. On vivait pour soi. On vivait pour son plaisir. On vivait comme on avait envie de vivre. Après, on se réveillait avec une gueule de bois. Ça ne vous est pas arrivé ? Mais c'est le monde dans lequel on vit. Tout petit, maintenant même très très jeune, il faut fumer, sinon tu n'es pas un homme. C'est une omelette, excusez-moi, mais il faut fumer. Il faut être comme cela. Parce que c'est comme ça. C'est le monde dans lequel nous vivons, bien sûr. Alors pour lui, c'est la liberté. plus de limite. Alléluia. Non. Non, pas alléluia. Plus de restrictions. C'est comme ça. Je fais ce que je veux. Mon fils me disait tout petit, je fais ce que je veux de mes cheveux. Il était petit, hein. Mais déjà, il commençait, vous voyez. Alors, aussitôt qu'il a été loin, il a commencé à dépenser. Il a arrosé des collègues. Ah, des collègues, il en avait. Vous savez, tant que vous avez les moyens, des collègues, vous en avez, des copains. Hein. Et puis après, quand il n'y a plus les moyens, il n'y a plus les copains. C'est comme ça. Hein. Alors, il y a des mots agréables à notre société. Plus de liens. Plus d'interdits. Il faut se laisser aller. Allez, dépense sans compter. Allez, allez, fais la fête. Éclate-toi. Bien souvent, il s'éclate. Pour de bon. Hein. Alors, en tout cas, une vie sans frein, c'est une vie où on fait ce qu'on veut. Être libre, sans aucune interdiction, c'est le concept du monde dans lequel nous vivons. Ainsi, d'après le monde, venir à l'église, lire la Bible, c'est une contrainte. Parce que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Mais faire ce qu'on veut, c'est être esclave. C'est ce que me dit la Bible. Oui, elle est claire. D'après la Bible, eh bien faire ce que l'on veut, quelque part, ça ne vient pas de nous. Ça vient d'ailleurs. C'est des sentiments qui naissent et qui nous rendent esclaves et malheureux. Comment, je dirais, c'est comme, par exemple, est-ce que quelqu'un a fait du parachutisme ? Justement, on y vient. La chute libre. Le mot est là, hein, la chute, mais libre. Vous voyez ? Et dans la chute libre, on se sent tellement libre jusqu'à ce qu'on réalise qu'on n'a pas le parachute. Vous voyez ? Alors, on se croit libre jusqu'à ce que, eh bien, on touche le fond. On touche le fond. Et voilà combien dure la liberté. Le temps de toucher le fond, de se ramasser au fond, de se retrouver bien bas tombé. Alors même si temporairement, il faisait ce qu'il voulait, en fait, il n'était pas libre. Il était même bien piégé. Et oui. Et quand la situation a changé, eh bien, il a été à partir de là obligé de la subir. Obligé de la subir. C'est l'esclavage inévitable, justement, quand on ne veut pas, quelque part, vivre avec le Père, celui qui nous a franchis pour la vraie liberté au travers de son Fils Jésus. Lui, il pensait être libre, et voilà qu'il se retrouve esclave. Et c'est ça, être esclave. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Et on est esclave de ce qui triomphe de nous. On est esclave de nos désirs, je dirais, impurs. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. On est comme ça. Parlez avec des gens engagés dans la débauche sexuelle et vous verrez. Dites-leur d'arrêter. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils ne peuvent pas, bien sûr. Parlez avec des drogués. Même les drogues douces, elles vous laissent libres 40 jours, une quarantaine de jours. Et après, de nouveau, elle demande. Parlez avec des alcooliques. Parlez avec des alcooliques. Ils vous diront qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. Ça, c'est l'esclavage. Alors, il y a des choses qui ne s'apprennent, je dirais, pas sans douleur. Hein. C'est que dans la douleur qu'on apprend ces choses. On croyait qu'on était bien, formidable. Hein. Ça rentrait par là, mais ça, c'est vrai que ça laissait une petite douleur, là, un petit torboyau. Mais y aller, on pouvait le faire, on était libre, oui. Et c'est justement là que la famine, je parle de la famine sévère, elle arrive. Alors toujours plus bas, jusqu'à réclamer la nourriture des porcs, des carouges. Alors, bien sûr qu'il faut être rétabli dans la qualité de fils ou de fille pour justement être vraiment libre, pour être vraiment dans la liberté. Alors, comment puis-je être rétabli? Eh bien, c'est simple, quelques suggestions. Déjà, il nous a dit que étant rentré en lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est mis à réfléchir. Et c'est vrai que quand ça ne va plus, quand plus rien ne va, quand on ne maîtrise plus rien, on réfléchit. Avant, non, on s'est engagé, tête baissée, on a foncé dans la mêlée. Excusez-moi, il y a du rugby en ce moment. Mais vous comprenez? On ne réfléchit pas. Et quand plus rien ne va, là, on se met à réfléchir, on entre en soi-même et on réfléchit bien à ce que l'on vit. Vous savez, quand on vient repentant vers Dieu également, puisque c'est ça, rentrer en soi-même, après avoir fait le point. Eh bien, quand on vient repentant vers Dieu, on retrouve, je dirais, la bonne orientation. On retrouve ses sens. Loin de Dieu, j'irais jusqu'à dire qu'on est loin de nous-mêmes. Tant qu'on est loin de Dieu. Vous ne pouvez pas vous connaître vous-même si justement vous n'avez pas de relation avec Dieu. C'est vrai que c'est Dieu qui nous a fait à son image. Pas que nous ressemblions physiquement à Dieu, mais il nous a fait pour avoir une relation avec nous, à son image, pour que nous puissions entrer en relation et vivre en relation avec lui, en harmonie avec lui, pour qu'il puisse nous parler, qu'il puisse, en tant que Père Céleste, eh bien, lui qui, je pense que vous faites pareil, ou en tant que parent, vous voulez le meilleur pour vos enfants, eh bien, c'est ça, il veut le meilleur pour nous. Il veut nous éviter des souffrances. Et c'est vrai que sans Dieu, eh bien, on n'est pas soi-même. On n'est pas soi-même, on est perdu, on n'a pas de but. Mais voilà qu'en venant vers Dieu, on découvre qui on est réellement. Ça ne vous est pas arrivé de poser la question « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ici-bas ? Pourquoi est-ce que je vis ?» Et puis finalement, en revenant vers Dieu, on retrouve sa véritable identité. Je suis une créature de Dieu. Je dois devenir enfant de Dieu. Pas seulement rester créature, mais je dois devenir enfant de Dieu. Je dois être enfanté par le Père Céleste. Il m'a donné son Fils qui est mort sur le bois de la croix pour que moi je puisse vivre. Lui, il s'est sacrifié pour que moi je puisse vivre libre, pardonné. Amen. Alors il réalisa une chose quand il est rentré en lui-même. Il le dit. Il avait péché contre Dieu. Contre son père, si vous préférez, il avait péché contre des personnes. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai péché contre le ciel? Eh bien, j'ai péché contre Dieu. Eh oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, j'ai péché contre toi? Hein? Et j'ai péché contre mon père. J'ai péché contre ma famille. J'ai péché contre un être humain, eh oui. Et voilà que dans sa repentance, quelque part, il nous montre, parce qu'il l'a réalisé même, qu'il a péché d'abord contre Dieu. On ne réalise pas. On fait des choses qui nous détruisent, mais je suis une créature de Dieu. Si je détruis ce que Dieu a créé, quelque part, je pêche non pas seulement contre mon propre corps, mais contre Dieu. Il dit également qu'il a péché contre des personnes, parce que le péché, en définitive, c'est contre Dieu, mais il implique aussi ceux qui sont autour de nous, des personnes, ou des personnes qui sont atteintes parce que j'ai fait quelque chose de mal et je les ai blessées. Si vous avez frappé quelqu'un, bien sûr, c'est un péché contre Dieu, parce que cette personne, c'est une créature de Dieu. Vous avez, quelque part, scandalisé le Père. Mais il ne faut pas seulement vous enfermer dans votre chambre et dire « Je regrette, j'ai péché contre toi, Seigneur, et puis c'est tout. » Non, non. Il faut justement aller demander pardon à la personne que vous avez frappée. Vous comprenez ou pas? Je règle ça avec Dieu. Attends, et lui là? Tu en as mis une? Eh oui! Alors finalement, la repentance, la tristesse selon Dieu, cette tristesse dont on ne se repent jamais, hein, c'est ce que dit l'apôtre Paul, n'est pas pour ce qu'il a perdu, mais pour ce qu'il a fait. Vous comprenez ? Eh oui. Tandis que les remords ou les regrets, c'est « Oh, j'ai perdu tout mon argent, ma réputation est finie, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Finalement, là, dans ce contexte-là, on ne se sent pas bien. Mais ça ne signifie pas que l'on s'est repenti. On vit avec des regrets. Si j'avais écouté, si j'avais seulement réfléchi avant de m'engager, avant de faire ça, si j'avais réfléchi. Il y en a qui disent « si j'avais su ». Mais bien souvent, ils savent, mais ne veulent pas. Eh oui. Un garçon, pendant sa leçon de piano, a été horrible avec son professeur. Il a été mais d'une rébellion terrible. Il n'a pas voulu coopérer, il a crié, enfin, il a saccagé tout le cours. Il a fallu que le papa vienne justement dans la salle et il fasse le gendarme, vous voyez. Alors il a donné une bonne fessée pour le calmer parce qu'il était intenable, il était dans une furie. Ensuite, il lui a dit, un peu plus tard, à la maison, il était dans la maison, dans sa chambre, il a dit, mets-toi à genoux près de ton lit. Mets-toi à genoux. Et mon garçon, il faut que tu te repentes de ce que tu as fait. C'est terrible ce que tu as fait. Alors le garçon l'a fait. Puis il lui a dit, c'est terminé papa. Et papa a répondu, non. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas écrire une lettre à ton professeur et lui dire que tu es vraiment, vraiment, vraiment désolé et que tu ne recommenceras plus. Donc le garçon l'a fait. Papa, quand il a vu faire son fils, il avait envie de venir un peu le consoler parce qu'il avait été dur. Mais il a dit qu'il ne fallait pas. Il a dit « je devais rester en colère ». Ensuite, il va lui dire « maintenant, tu vas t'excuser à l'égard de tous ceux qui étaient dans la pièce parce que tu as agi comme cela et il ne fallait pas. Donc là aussi, tu vas leur demander pardon parce que tu les as certainement blessés. » Est-ce que vous comprenez? Le fils prodigue, il rentre en lui-même, il réalise qu'il a péché contre Dieu, contre des personnes, il réalise qu'il n'a plus le droit, justement, au privilège d'être appelé un fils. Il ne peut plus avoir accès à ce privilège de fils. Et quand on réalise ce qu'on a fait, alors on réalise justement tout ce que Dieu a fait pour nous et on comprend qu'on ne le mérite pas. On comprend qu'on ne mérite pas. Nous en sommes indignes. Et c'est vrai que c'est un privilège immense que Dieu nous fait lorsqu'il nous accorde quelque chose. Amen. Oh Dieu, guéris-moi. Et Dieu nous guérit. Dieu, délivre-moi. Et Dieu nous délivre. Mais est-ce que nous le méritons? Dieu, pardonne-moi. Est-ce qu'on mérite? Quand on a fait galérer les autres, quand on les a fait souffrir, on ne mérite pas. Néanmoins, Dieu nous l'accorde. Dieu nous pardonne. Dieu nous sauve. Dieu nous transforme. Dieu nous guérit. La Bible nous montre que Jésus est venu mourir pour des êtres indignes. Et oui. Et c'est à cause de son amour que nous avons de la valeur et non parce que nous aurions fait quelque chose de méritoire. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Il n'y a pas d'autre raison. Nous, on est toujours dans le calcul en disant « Ah oui, mais ça va me mener où et qu'est-ce que je devrais faire et comment ça va se passer ?» Dieu, lui, sait tout. Il a choisi de prendre les devants. Il a choisi de se faire homme, de venir à notre contact. Il a choisi de se laisser arrêter, aller accuser injustement, juger, condamner, à mourir sur le bois de la croix. Il l'a fait jusqu'au bout pour que nous puissions être pardonnés. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il nous aimait. Et je le dis souvent, le salut est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Amen. Et voyez-vous, à partir de là, je réalise certaines choses. Ma valeur, elle est égale à l'amour que Dieu me porte. S'il a donné son fils unique, son unique, ce qu'il avait de plus cher, ça prouve la valeur que j'ai ou qu'il m'accorde. Amen. Eh oui. Nous sommes des brebis perdues, des fils perdus. Et quand nous voyons notre indignité, alors oui, nous voyons notre privilège d'être un fils. Amen. Le Père, c'est de lui que parle aussi la parabole. Et je vais finir avec ça. Lui, il cherche. Il va laisser les 99 brebis dans le désert pour en chercher une. Il a 9 pièces d'argent, mais son cœur n'est pas satisfait. Il en manque une, alors il va se mettre à la recherche. Il ne nous dit pas non plus, un est parti, il m'en reste encore un. Non, il cherche. Il cherche celui qui est parti, celui qui est perdu, parce qu'il faut le retrouver, il faut le sauver. Et c'est lui qui va me pardonner. Amen. C'est lui qui m'a pardonné quand j'ai réalisé, que j'ai compris que j'étais le fils perdu et que j'avais besoin d'être sauvé, que j'avais besoin de revenir vers lui tout simplement. Amen. Et le Père est continuellement en train d'attendre. Il attend son fils, il guette l'horizon. Eh oui. Peut-être que tous les jours, il regarde de loin, en se mettant sur une hauteur, un promontoire, je ne sais pas. Mais s'il le voit revenir, le fils est en train de se dire, lui, de son côté, parce qu'il n'est pas fier, il est penaud, il a compris, et il est même repentant. Parce qu'il dit, j'ai péché. Donc il passe par la repentance, ce gars. Je vais dire ça, ça, ça. Il est encore loin. Il ressemble peut-être à un grain de poussière, là-bas au loin, voyez, dans le lointain. Mais son père pense tellement à lui qu'il sait que c'est lui. Il en est convaincu. C'est mon fils, il revient. Alors, plein de compassion pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir. Le fils le voit, il pense, c'est fini pour moi, il va se mettre à hurler. Je te l'avais dit! Et oui, pour lui, il pense comme ça. En arrivant, je vais en prendre deux en aller-retour, là. Il va me frapper. Cette fois, je suis mort. Mais le père, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses bras autour du cou de son fils. Il dit, là, il va m'assommer. C'est fini. Je suis mort. T'es foutu. Qu'est-ce qui se passe? Le père l'embrasse. Le verbe grec signifie « il l'embrasse encore, 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 encore ». C'est ce que dit le verbe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça ne fait rien tout ce que tu as fait, c'est fini. Tournez la page. Il ne demande pas « qu'as-tu fait de l'argent ?» Non, une seule chose l'anime, c'est son cœur. Il est heureux pour la simple raison qu'il est de retour. Et puis en plus, il est repentant, il a compris. Il a compris la leçon. C'est pas magnifique? Et voyez-vous, la puissance de l'amour de Jésus est si forte qu'aucun péché ne peut lui résister, quoi que vous ayez fait. Si vous êtes vrai, sincère, que vous ne revenez à lui repentant, il vous pardonne. C'est pour ça qu'il a choisi la croix. C'est pour ça qu'il s'est mis à notre portée, sans péché. Il pourrait nous juger d'en haut. Non, non, il s'est mis à notre portée, à notre niveau, sans commettre de péché, en disant, moi aussi j'étais tenté, mais je n'ai pas péché, et je peux te pardonner. J'ai le pouvoir de le faire. Ça a scandalisé les pharisiens de l'époque. Hein. Eh oui. Alors ça, c'est la puissance de l'Évangile. Si tu viens à Jésus avec un cœur sincère et vrai, il pardonne. Amen. Il pardonne. Il libère. Si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Amen. Dieu se réjouit, non pas des matchs de rugby ou de foot. Non. Ni des économies qu'on a pu faire justement avec les soldes. Non. Il se réjouit pour un pécheur qui rentre à la maison, qui revient à la maison du Père, dans la présence de Dieu. Voilà comment il se réjouit le Père. Et pourquoi il se réjouit? La souffrance de la perte d'un objet, et j'y reviens, est égale à la valeur de l'objet perdu. Mais aussi, plus l'objet a de la valeur, plus on se réjouit quand on le retrouve. Ça, vous l'avez vécu d'une manière matérielle. Mais c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Un seul pécheur qui se repent, la Bible nous dit que dans le ciel, les anges font la fête. Amen. C'est formidable, la parole de Dieu, vous ne croyez pas ? On réfléchit, nous, bien souvent, mais on réfléchit mal. On a besoin d'être vrai, sincère, avec un regard honnête, et dire là, je me suis planté. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Est-ce que je vais vivre comme cela ? Ou est-ce que je l'affronte, cette vérité ? Et je viens devant le Père et je lui dis, pardonne-moi, j'ai péché. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Et le Seigneur nous placera devant Jésus en disant, lui, il a payé pour toi. Vous voyez, tu n'es pas digne. Mais puisque lui te représente, puisqu'il est le médiateur entre toi et moi, et qu'il dit, pardonne-lui, Père, j'ai payé pour lui. Je me suis sacrifié pour lui. Alors oui, on retrouve finalement. Allez, on retrouve notre pureté, notre innocence. Amen. Parce que quand on devient une nouvelle créature, c'est ce que l'on vit. Je suis un homme nouveau, une femme nouvelle. Amen. Ça, c'est le miracle. Je ne sais pas comment vous l'exprimez ou l'expliquer encore, mais c'est le miracle. On ne peut pas se transformer, on ne peut pas changer intérieurement, on ne peut pas vivre un bouleversement. C'est en revenant vers le Père, en revenant à la maison du Père, en revenant dans la présence de Dieu, qu'on retrouve notre identité, qu'on trouve la véritable identité qui est la nôtre, celle que nos parents nous ont fait perdre au commencement, lorsqu'ils ont commencé à pécher et à désobéir à Dieu. Amen. Dieu nous a donné son Fils. Amen. Dieu a donné son Fils pour toi, mon ami. Il faut que tu le reçoives ce soir. Il faut que tu fasses une expérience avec lui. Une rencontre personnelle. J'aimerais prier tout simplement. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Seigneur, l'exemple de ce fils prodigue, de ce fils qui a pris les biens de son père parce que ce n'était pas les siens encore, et qui est parti tout dépenser, qui est parti se perdre. Seigneur, tu nous l'as laissé en souvenir pour que nous puissions en parler, nous identifier à lui, mais surtout rentrer en nous-mêmes et réfléchir et dire, Seigneur, c'est auprès de toi que je peux tout trouver. Merci de visiter, Seigneur, cet auditoire. Seigneur, tu es le Dieu de la révélation, tu es le Dieu de l'amour. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous connaît parfaitement. Seigneur, tu as ce désir de pardonner. Tu as ce désir de rétablir celui ou celle qui s'est trompé, qui vit en marge de ta volonté, qui aimerait pouvoir faire demi-tour, qui ne sait pas comment. Ce soir, tu lui dis, repens-toi. Repens-toi, sois sincère et vrai. Et reviens à moi avec un cœur vrai. Je te pardonne. Alors Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'action de ton esprit ce soir dans les cœurs et dans les âmes. Au nom de Jésus, soyez visités. Vous qui avez besoin de demander pardon à Dieu, faites-le. Faites-le. N'hésitez pas. S'il vous faut réparer auprès de quelqu'un, faites-le aussi. C'est comme ça que vous allez être véritablement affranchi, libéré, qu'il n'y aura plus cette épée de Damoclès sur votre tête, qu'il n'y aura plus cette souffrance mal, là à l'intérieur qui vous ronge. Vous tournez les regards vers Jésus et demandez-lui de vous aider. Déjà, vous pardonnez vous-même. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant. Vivez cette expérience. Vivez-la.